Côté expert.
Côté expert.
Ils sont omniprésents dans notre vie quotidienne et nous absorbent à la fois petits et grands, dans le salon ou même directement dans sa poche. On parle des écrans aujourd'hui. Quel danger pour les enfants et les adultes? Nous sommes avec Heidi Terrier, sophrologue et thérapeute en hypnose humaniste à Orléans. Quel est votre rapport aux écrans? Qu'avez-vous mis en place pour les diminuer dans votre vie? Est-ce la solution de facilité pour les enfants et petits-enfants? 02 38 53 25 25, vous réagissez à n'importe quel moment. Bonjour Heidi.
Bonjour Léo, bonjour tout le monde.
Bienvenue sur France Bleu Orléans. On vous pose cette question. Qu'est-ce qu'une addiction?
Alors une addiction, c'est une dépendance extrême. C'est-à-dire que si on prend par exemple le téléphone, c'est le stress si on n'a plus de batterie, c'est le stress si on l'oublie.
Tout simplement. Et ce matin, vous l'avez oublié d'ailleurs.
Eh bien oui, il est à la maison pour la journée, donc je ne suis pas joignable de la journée.
Voilà. Il y a du stress pour vous ou pas du tout?
Ah, pas du tout.
Très bien. Donc vous, vous n'êtes pas addict. Vous êtes soulagé. Pourquoi on devient addict? Pourquoi on est addict des écrans?
Alors ça répond à un plaisir. En fait, il y a une hormone, la dopamine, qui se libère lorsqu'on reçoit des messages qui sont agréables, lorsqu'on reçoit des likes, lorsqu'on joue et qu'on passe de niveau, etc. Et tout est fait, en fait, pour nous tenir en haleine par rapport aux écrans.
Très bien. Et donc ça, c'est quelque chose, on devient addict et après, on peut pas s'en passer. Là, on parle que de choses agréables, pourtant des fois, on reçoit des messages désagréables, des fois, on n'a pas forcément de batterie, on est stressé, ça n'est pas pour autant qu'on nous enlève de l'addiction.
Non, au contraire, en fait, ça nous remet dans le rythme et dans le cycle de l'addiction. Il faut savoir aussi que le mot addiction est un mot qui est banalisé aujourd'hui.
C'est ça, ça paraît anodin.
Je suis addict au chocolat. Je suis addict au sport.
Et donc, du coup, ça perd un peu de sa connotation.
Exactement.
Alors que c'est quand même très important, l'addiction, et il ne faut pas la prendre à la légère.
Non, c'est quelque chose à prendre au sérieux, oui, parce que ça peut nous couper de notre lien social.
D'accord. Quelles sont les conséquences ou les effets d'une addiction?
Alors, le premier effet, celui dont je viens de parler, hein, c'est l'interaction sociale qui est diminuée. Il peut avoir aussi des conséquences au niveau de la fatigue, puisqu'on y passe des heures. Et puis, du coup, le rythme du sommeil s'en trouve modifié. Il peut y avoir des conséquences sur la santé, avec pour certaines personnes des maux de tête ou des troubles oculaires. Ça peut aussi nous engendrer un effet néfaste sur une approche vers la solitude. On est sur l'écran, ça nous fait plaisir, on y est bien, on reste dans sa bulle. Et puis,
on s'enferme.
Exactement.
On s'enferme avec le monde qui nous entoure. Et pourtant, à la base, par exemple, il y a des notifications, on peut se dire l'interaction sociale, elle augmente. Alors oui, elle augmente virtuellement, mais dans la vie de tous les jours, visiblement, non.
Oui, il y a. Enfin, non et oui.
Oui, exactement, c'est ça. J'imagine qu'au terme d'addiction, on parlait du manque de sommeil, c'est parce qu'on préfère rester sur nos écrans plutôt que dormir. Quand on arrive à ce point-là, c'est vraiment qu'on commence à avoir une addiction sévère?
Alors, le sommeil nous prévient. En fait, il y a un cycle du sommeil et il y a des signes du sommeil le soir pour nous prévenir d'aller nous coucher. Et quand on est sur les écrans, que ce soit à la télé, que ce soit sur n'importe quel écran, téléphone, télé, jeu, on loupe ces signes. Et on loupe notre rythme de notre cycle du sommeil et on décale en fait notre phase d'endormissement, ce qui peut arriver à des conséquences qui fait qu'on aura moins d'heures de sommeil. Il faut savoir que en moyenne, les Français dorment 7 heures de sommeil par nuit, ce qui est le minimum.
C'est le minimum requis.
C'est-à-dire qu'on peut dormir moins, hein, mais 7 heures, c'est quand même le minimum.
Et idéalement, ce serait quelle heure?
C'est entre 7 heures et 9 heures. 9 heures, c'est beaucoup.
D'accord.
Après, il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs. Enfin, ça, c'est un autre sujet.
C'est ça, exactement. Alors, un point sur les âges, parce qu'il y a des importances, hein, des écrans, j'imagine, pour les enfants, pour les adultes, ça ne doit pas être la même chose.
Oui. Alors, en fonction des âges, il faut soit interdire l'écran, soit normaliser l'écran à la maison.
Normaliser l'écran,
c'est-à-dire en dessous de 3 ans, bien entendu, pas d'écran.
Oui, ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement.
Voilà. Entre 3 et 6 ans, il vaut mieux éviter tout ce qui est console de jeu.
D'accord.
Donc, un petit dessin animé, voilà, pourquoi pas. Mais éviter tout ce qui est interaction sur une console de jeu une heure d'écran maxi dans la journée.
Donc par jour, entre 3 et 6 ans, maximum une heure, on va dire, de dessin animé. voilà. Gros, oui. C'est ça. Pas d'interaction, jeu de société, jeu vidéo, où là, l'enfant est très actif parce que...
Pas de console de jeu de 3 à 6 ans.
Très bien.
C'est, en tout cas, c'est ce qui est conseillé.
Bien sûr, là, on parle de recommandations naturellement.
Voilà, oui.
Ça marche. Après 6
ans... Jusqu'à 9 ans, 2 heures d'écran maxi par jour, avec... on évite les navigations sur Internet, sauf avec un adulte.
D'accord.
Et puis au-delà de 12 ans, en 12 ans et plus, navigation sur Internet avec discernement. Donc là, on rentre sur une préadolescence où il va falloir faire alliance avec son jeune.
Et ça, bon courage. C'est plus facile à dire qu'à faire. On va parler avec vous, Heidi Terrier. Vous êtes notre invitée. Vous êtes sophrologue et thérapeute en hypnose humaniste à Orléans, rue de la Bretonnerie, de la nomophobie. Et surtout, on va parler des conseils pour essayer de changer nos habitudes. Je viens d'avoir mon temps d'écran de la semaine dernière en moyenne. Je pense que ça va pas vous plaire.
Jusqu'à 10h, côté expert.
Côté expert.
Léo Simard.
Les écrans, quel danger pour les enfants et les adultes. On en parle avec Heidi Terrier, sophrologue et thérapeute en hypnose humaniste à Orléans, située rue de la Bretonnerie. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir à ce sujet, allez-y, 02 38 53 25 25. Avec vous, Heidi, on évoque la nomophobie. C'est une phobie, certes, une phobie de quoi ?
Alors, c'est une dépendance extrême au téléphone portable.
Donc, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que... oubli du téléphone, perte du téléphone, plus de batterie, provoque une peur extrême qui va avoir des conséquences au niveau des émotions. Une forte angoisse, peur, angoisse, et au niveau de la santé, ça va provoquer des tremblements, un mouvement.
C'est carrément une addiction plus.
C'est ça, c'est une phobie. La tachycardie, des sueurs, des sensations d'étouffement, de vomissement et puis de perte complète de concentration.
Très bien, donc la nomophobie, voilà, c'est...
Là, on est dans l'extrême.
On est dans l'extrême, mais voilà, cette nomophobie, elle existe et il y a des personnes qui en sont atteintes. Alors, est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner pour changer nos habitudes ? Je vous parlais de mon temps d'écran, ça y est, je l'ai reçu là. Cette semaine, j'étais à 5h12 en moyenne par jour sur mon téléphone.
Oui, alors vous m'avez quand même signalé qu'il y avait un temps d'heure par le GPS.
C'est ça, c'est-à-dire
c'est
que
rassurant.
Sur la semaine, il y a 12 heures de GPS, au moins déjà pour commencer. Mais c'est déjà beaucoup, même moi je trouve beaucoup, et j'ai pas cette impression par jour de perdre autant de temps sur mon téléphone, même si c'est un outil de travail, j'ai pas cette impression-là. Donc est-ce que vous avez des petites astuces pour changer d'habitude un petit peu, ou moins l'utiliser ?
Alors, première astuce que moi je mets dans mon quotidien, c'est regarder mes messages toutes les 3-4 heures, c'est-à-dire pas tout à fait le matin, mais voilà, je me lève, je déjeune tranquillement, je me prépare, et là, je regarde la liste des messages qui sont passés dans la nuit ou dans la fin de soirée.
Très bien, vous faites votre rituel matinal, voilà, tranquillement, avec vous-même, avec votre famille, etc.
Exact.
Ensuite.
Après, on laisse le téléphone si on n'a pas besoin d'appeler. Enfin, là, je parle du téléphone, hein, dans tous les cas, dans ce cas-là. Téléphone sur le côté, puis on peut regarder tous les messages et notifications quelques heures après, à l'heure du repas, par exemple, à midi.
Par exemple, très bien.
Et puis, on refait la même chose, une petite coupure dans l'après-midi, et puis regarder en soirée, et si c'est pas possible, une fois dans l'après-midi. C'est-à-dire, en fait, ne pas regarder les messages dès qu'ils arrivent. Et là, on gagne un temps fou.
C'est-à-dire que dès qu'on a une notification, ne pas forcément la consulter tout de suite.
Et la mettre du coup en silencieux.
Par exemple, très bien, ça peut être une astuce.
Ça va offrir de la liberté et ça va offrir de la tranquillité de l'esprit.
Oui, donc c'est-à-dire qu'on va même être plus concentré peut-être sur ce qu'on va faire le matin, l'après-midi, parce qu'on n'est pas tout le temps là et trop taqué de la moindre notification que nous allons recevoir sur notre téléphone.
C'est ça. Et en fait, en essayant juste sur une journée ce type de méthode, hein, d'astuce, vous verrez que les tensions dans la nuque, les tremblements, les petites angoisses, elle diminue.
Elle diminue et ça se voit assez rapidement, les effets.
Dans la journée.
Donc oui, ça se voit très très rapidement. Comment on peut faire alliance avec les jeunes, parce que vous en parliez tout à l'heure, après 12 ans, oui, il y a cette possibilité de les laisser naviguer sur Internet par exemple avec discernement. Comment on peut essayer de faire comprendre l'importance que c'est un peu toxique pour les jeunes de faire trop d'écran, mais en même temps, eux, ils ressentent du plaisir à être sur les écrans. Oui. C'est compliqué.
C'est ça, en fait, c'est compliqué parce que le jeune, lui, il comprend pas. Il est bien sur les écrans, ça provoque du plaisir, et lui, il ne veut pas que ça change. Le jeune, il est dans ce monde-là, et vraiment s'opposer à ce principe-là, on va à l'encontre du résultat que l'on veut atteindre. Donc ce qu'il faut, c'est s'intéresser à ce qu'il fait. S'intéresser, s'il est en train de faire un jeu vidéo, c'est s'intéresser au jeu, s'intéresser au mouvement du jeu.
Essayer de comprendre quel est le but du jeu, pour quelle raison il adore ce jeu, ou des fois il s'agace sur ce jeu. Voilà, essayer d'être dans la compréhension.
Alors dans un premier temps, avant de comprendre pourquoi il s'agace, déjà c'est comprendre quels sont les personnages, comment ça se passe dans le jeu, quel est l'objectif, faire alliance, montrer que quelque part on aurait aussi envie de rentrer dans l'histoire de ce jeu. Là, c'est premier pas de faire l'alliance. Après, en tant que parent, on peut essayer de changer, de mettre en place un changement d'habitude, de faire comprendre aussi que par rapport à tous ces écrans, il se passe une certaine sorte de manipulation qui fait qu'on a automatiquement envie d'être sur nos écrans. Et ça, comprendre que c'est une manipulation, l'ensemble de ces réseaux, c'est un bon levier au niveau de la psychologie du jeune.
Donc ça, c'est assez important. On va continuer à parler avec vous, Heidi Terry. Vous êtes sophrologue et thérapeute, puisque la sophrologie peut nous aider en partie. On va en parler dans quelques minutes après Clara Luciani. C'est tout le monde dans notre émission Côté Expert sur France Bleu Orléans, 9h47.
Côté Expert. Léo Simard.
On évoque les dangers pour les enfants, les adultes de la surexposition au niveau des écrans avec Heidi Terrier, sophrologue et thérapeute en hypnose humaniste à Orléans. Vous êtes située rue de la Bretonnerie. On va redéfinir avec vous la sophrologie, puisque notre addiction à l'écran, elle peut être réduite grâce à la sophrologie. Commençons par ce que c'est la sophrologie en quelques mots.
Alors la sophrologie, c'est une technique qui permet de relier le corps et l'esprit. On utilise la respiration, des mouvements du corps, des intentions, des visualisations positives qui ne sont pas forcément des visualisations d'un lieu idéal. Il y a beaucoup, on va beaucoup plus loin en sophrologie, et ça permet de mettre en place dans l'esprit et dans notre propre biologie, notre corps, un changement.
Un changement. Et comment du coup la sophrologie peut nous aider dans ces cas bien précis?
Alors moi, quand j'ai le jeune ne vient pas. Enfin, il est accompagné par les parents. Hein, c'est le parent qui me l'envoie.
Très bien. Allez hop, dépêchez-vous, faites-en quelque chose, s'il vous plaît.
Et première chose que je fais. Alors si c'est un enfant, enfin c'est-à-dire que s'il a moins de 12 ans, je vais aller sur le ludique. Donc je vais aller dans des techniques de sophro-ludique corporelle.
D'accord.
Je sens que mon corps est là, je sens que mon corps est plein d'énergie, et prendre conscience de la présence de son corps aide véritablement à reprendre conscience de la vie.
Très bien, qu'il y a une vie vraiment en dehors des écrans et qu'il n'y a pas que les écrans dans la vie.
Tout à fait.
Ça, c'est important, et c'est avant 12 ans.
Voilà. Après 12 ans, je reste aussi sur cette technique corporelle que je n'appelle plus sophroludique du corps. Et là, on va être sur des mouvements en lien avec la respiration. L'objectif est le même, prendre conscience de la vie et même aller rencontrer les organes qui sont là à l'intérieur de nous et qui font notre propre fonctionnement.
Et c'est pris au sérieux par les adolescents, par exemple, ou pas?
Toujours.
Non, mais voilà, c'est vraiment une question, parce que je me mets à la place d'un adolescent et je me dis, bon, on va faire ça pour faire plaisir aux parents, mais pas forcément prendre conscience que...
Alors, il m'arrive, mais assez rarement, qu'un jeune soit envoyé par le parent et n'ait pas envie de refaire une deuxième séance. Mm-hmm. Dans ce cas-là, je propose toujours des outils pour que lui-même, il ait ce qu'il faut à mettre au quotidien. Et ça, je sais ce jeune le fait. Mais sinon, en règle générale, ils reviennent et je les accompagne sur 5 séances.
Très bien. 5 séances de sophrologie, donc, pour essayer.
C'est ça, c'est assez rapide. Hein.
Ça marche.
C'est une technique rapide.
Allez-y.
D'autres approches en sophrologie?
Oui.
Oui. Alors, ensuite, on peut aussi prendre conscience de la présence de son corps sur un axe vertical, hein, cette colonne vertébrale qui est notre axe de vie. Donc, on va avoir des mouvements corporels qui vont permettre de prendre conscience de la verticalité de notre corps. Et puis, on peut également, pour d'autres personnes qui auraient besoin plutôt d'être sur une relaxation, moi, je vais aller au-delà de la relaxation, vers un grand, un profond relâchement corporel, détente de l'ensemble du corps et de l'esprit.
Très bien. Et puis rapidement, vous parliez aussi hors antenne de l'hypnose.
Alors, on peut accompagner aussi en hypnose. Donc, moi, j'accompagne en hypnose humaniste. C'est une thérapie symbolique. Et là, dans ce cas-là, on accompagne sur ce qui nous empêche de... Enfin, on enlève ce qui nous empêche dans l'esprit. On enlève ce qui nous empêche de par rapport à cette addiction, en fait.
Très bien. Merci beaucoup, Heidi Terrier. Vous êtes sophrologue et thérapeute en hypnose humaniste à Orléans. Vous êtes située rue de la Bretonnerie. Merci d'avoir été notre invitée. Pour retrouver le podcast, vous allez sur francebleu.fr et l'application ici par France Bleu et France 3. Merci beaucoup.
Merci Lou. Merci à tous. Merci de m'avoir accueilli.
À bientôt.
Au plaisir.
Côté expert continue sur francebleu.fr et l'appli France Bleu.